Éternel Dieu, nous te disons encore une fois merci pour ces moments que tu nous accordes de venir dans ta présence afin d'écouter de ta part. Merci Seigneur parce que tu as choisi à ce que je sois la personne, ce vase Seigneur dont tu vas encore une fois te servir pour parler à ton peuple réuni ici cet après-midi ou ce soir. C'est pourquoi Père, je prie que tu puisses encore une fois me garder, que tu puisses encore une fois me guider dans tout ce que je veux dire, que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient réellement ces paroles-là que tu as prévues pour le peuple qui s'est réuni ici pour t'écouter. Merci Seigneur parce que tu vas nous guider. Je prie pour chacun de nous. Je prie que cette parole, Seigneur, puisse encore une fois apporter vie, qu'elle puisse encore une fois nous convaincre davantage que tu es un Dieu et tu es bon et tu es fidèle et qu'elle puisse nous aider à aller de l'avant dans notre foi et dans notre marche avec toi. Merci Seigneur parce que tu vas le faire car c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Bonsoir encore une fois. C'est encore une fois une grâce, un honneur, un privilège pour moi de me tenir devant vous ce soir afin de partager la parole de Dieu. Je dis merci aux pasteurs et aux consistoires qui ont mis leur confiance en ma personne afin que je puisse partager la parole à partir d'aujourd'hui jusqu'au mercredi. Et la parole que nous allons étudier encore une fois cet après-midi, nous l'avons vue le matin et nous allons encore une fois la revoir ce soir, se trouve dans deux passages des Écritures. Et je suis vraiment étonné de voir combien Dieu agit de manière extraordinaire parce que Joshua n'était pas là le matin. Je ne pense pas qu'il a même suivi les messages que j'ai donnés le matin, mais il est en train de prier pour des choses que nous allons voir dans notre exhortation de ce soir. Il est en train de demander à ce que Dieu puisse augmenter notre foi et je suis tellement étonné de voir combien Dieu sait connecter les personnes qu'il a choisies pour son service. Et donc, les passages que nous allons lire se trouvent. Le premier passage, c'est dans Ézéchiel chapitre 47, à partir du 2e verset jusqu'au 5e verset. La Bible nous dit, Ézéchiel chapitre 47, du 2e au 5e verset. La Bible dit, « Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Nous allons aussi lire 2 Rois, chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. 2 Rois, chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. La Bible dit, c'est l'histoire d'une veuve, et c'est parmi ces récits-là des miracles du prophète Élisée, et nous trouvons ici une veuve dont on raconte l'histoire. Et on dit, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, ils lui présentaient les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Verset 7, « Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Parole du Seigneur. Alors, le sujet qui nous a été donné pour ce séminaire, premier jour de la deuxième semaine de notre séminaire de prière, mais aussi un séminaire des jeunes, le sujet de ce jour, c'est où se trouvent les problèmes aujourd'hui. Où se trouvent les problèmes aujourd'hui? C'est une question et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y trouver quelques réponses. Amen. Et une des choses que nous devons savoir, c'est que nul n'est besoin de réfléchir trop longtemps pour se rendre compte qu'il y a des problèmes autour de nous. Nous n'avons pas besoin de nous gratter la tête, de réfléchir pour voir combien notre société, notre monde fait face à beaucoup de problèmes, à beaucoup de défis. Et la veuve que nous venons de voir dans ce passage de 2 Rois chapitre 4 faisait aussi face à des problèmes et des crises multidimensionnelles. Dans le contexte particulier du texte que nous venons de lire, nous voyons que cette femme faisait face à une crise économique. Une crise économique, pourquoi? Parce que son mari venait de mourir. Elle venait de perdre son mari, mais ce mari n'était non seulement pas mort, mais il était aussi mort endetté. Et donc, elle a hérité aussi des dettes de son mari. Elle n'avait pas de quoi rembourser et ses enfants, comme c'était la coutume du temps, étaient sur le point d'être donnés en esclavage pour faire quoi? Pour compenser ou rembourser cette dette-là. Et donc, elle faisait face à une crise économique et nous pouvons tout à fait nous identifier à cette femme parce que le monde dans lequel nous vivons est économiquement dans une crise. Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine l'année passée, le prix du blé a doublé, n'est-ce pas? Le prix de beaucoup de denrées a doublé. Et si ce n'était pas la pire des choses qui pouvaient nous arriver, il y a aussi une autre guerre qui a commencé dans notre province. Des frontières ont été fermées et les prix de beaucoup de choses dont on a besoin, des aliments de première nécessité, ont aussi grimpé. Et donc nous pouvons nous identifier à cette femme parce que nous faisons aussi face à une crise économique. Les mêmes sacs de farine qu'on pouvait payer à 10-15 $ il y a une année ou deux comme ça, maintenant a doublé, le prix a doublé. La braise qu'on payait à un prix, je sais pas, de 20 $ a aussi doublé. Nous faisons réellement face à une crise économique. Cette femme aussi ne faisait pas seulement face à une crise économique, mais elle faisait aussi face à une crise émotionnelle. Elle venait de perdre son mari. Nous connaissons, vous et moi, quel est le choc que nous avons quand nous perdons un être cher. Et dans cette crise-là émotionnelle où elle était encore dans son deuil, elle subissait encore la douleur de la perte de son mari, comme si cela ne suffisait pas, elle héritait aussi des déboires de ses maris qui venaient de partir. Elle héritait aussi de ses dettes. Cette femme ne faisait pas seulement face à une crise économique et à une crise émotionnelle, mais elle faisait aussi face à une crise familiale. Elle faisait face à une crise familiale, parce qu'on peut s'imaginer comment se fait-il qu'il n'y avait personne pour lui venir au secours. Où étaient ces autres familiers-là? Parce qu'il me semble qu'elle était vraiment abandonnée de tous. Et dans la loi d'Israël, il y avait quand même des choses qui étaient dites pour qu'on puisse prendre soin des veuves et des orphelins. Mais cette femme, dans ce contexte particulier, elle n'avait personne. Elle était délaissée à elle-même. Et donc, elle faisait aussi crise face à une crise familiale. Et elle était victime d'un homme cruel qui, en dépit de cette loi-là, qui protégeait les veuves et les orphelins, était sur le point de lui enlever ses enfants. Pas un seul d'entre eux, mais les deux, parce qu'il avait besoin d'être payé. Il voulait être remboursé. Cet homme voulait être remboursé. Parce que des fois, quand on est avare et qu'on a vraiment besoin d'avoir son argent, cette avarice-là peut se transformer en cruauté. On ne se rend même pas compte du contexte dans lequel se trouve la femme que je suis en train d'aller, chez qui je suis en train d'aller réclamer mon argent. Je veux mon argent à tout prix et si tu ne me le donnes pas, je te prends tes enfants et ils vont devenir mes serviteurs ou mes esclaves. Mais ce que nous pouvons remarquer aussi dans ces passages, c'est que toutes ces choses qui arrivaient à cette femme n'étaient pas la conséquence d'une offense quelconque de sa part. Ce n'est pas parce qu'elle avait péché contre Dieu que ces événements étaient en train de se produire dans sa vie. Parce qu'il est vrai que les épreuves sont là. Et ces épreuves-là affectent et ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Les défis auxquels nous faisons face, la crise à laquelle nous faisons face affectent ceux qui viennent à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église. Toutes ces crises-là, les choses, les catastrophes, nous faisons tous face à ces catastrophes-là, que nous soyons chrétiens ou pas. Et pour cette femme, ce n'est pas parce qu'elle avait offensé Dieu quelque part qu'elle était en train de traverser ces choses, mais c'est parce que c'est le cycle de vie dans ce monde qui est brisé. C'est le cycle de vie dans ce monde qui est brisé. Et donc les défis, les catastrophes seront toujours là. Nous ferons toujours faire face à ces choses-là tant que nous serons dans cette terre des humains. Et alors on doit se poser la question, mais alors, si les problèmes, ce que nous connaissons comme problèmes, seront toujours là, ces défis-là seront toujours là, quel est alors le plus grand problème aujourd'hui? Où se trouvent les problèmes aujourd'hui? Et pendant que j'étais en train de méditer sur ces paroles, pendant que j'étais en train de lire ces passages, j'ai tiré la conclusion que l'un des plus grands problèmes aujourd'hui est le manque de foi. Le manque de foi de la part de ceux qui professent être des chrétiens, ceux qui professent être des personnes qui croient en Dieu. Parce que le diable, comme il a toujours fait, continue à affaiblir la foi de beaucoup de croyants. Depuis le début, c'était ça sa technique. Il est vrai que quand nous faisons face à beaucoup de choses difficiles, quand nous faisons face aux défis, quand nous faisons face à des catastrophes, quand il y a une crise économique, émotionnelle, il y a une crise familiale, il est vrai que nous pouvons faire face aux doutes. Mais aujourd'hui, je suis encore une fois venu nous dire que demeurer dans les doutes peut être très dangereux pour notre marche avec Dieu. Nous pouvons faire face aux doutes, oui, mais demeurer dans les doutes peut nous mener vers une plus grande perdition. Parce que le diable, justement, utilise des fois ces épreuves-là pour nous aveugler. Il nous aveugle du fait que les épreuves, les circonstances difficiles peuvent aussi être une terre fertile que Dieu utilise pour accomplir des miracles, pour faire de grandes choses dans nos vies. En fait, on n'a pas besoin de miracles quand les choses sont faciles. Sinon, on ne les appellerait pas des miracles. Vous vous rappelez que Jésus a reçu la nouvelle que Lazare était malade. Il a reçu cette nouvelle. Maître, notre frère Lazare, il est malade. Mais il a attendu 2 jours. Et après qu'il soit mort, c'est là qu'il s'est présenté. Et il y a Marthe qui lui dit, mais si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Mais Dieu a dit que je l'ai fait pour que Dieu soit glorifié. Parce qu'il fallait que Lazare meure pour que le miracle qui allait s'accomplir ait le plus grand impact. Des fois, quand on ne fait pas face à des défis, quand les choses sont faciles, on n'a pas besoin de miracles. Moi-même qui vous parle, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 11 ans avec un père qui était présent. Un père qui pourvoyait aux besoins de sa famille. Un père en qui je voyais un héros, une personne qui m'inspirait. Depuis ma tendre enfance, cet homme-là, c'est mon père, en tout cas, il a investi en moi. Il était présent à toutes les proclamations. Il était là pour venir battre les mains pour son fils parce que c'était un père vraiment très responsable. Mais à l'âge de 11 ans, ma situation a changé dramatiquement. Dramatiquement parce que ce papa qui était toujours présent, ce papa responsable, est tombé malade. Gravement malade, une maladie mentale, et à l'heure même où je vous parle, il n'est pas encore totalement guéri. Mais je vous dis qu'à partir de ces 11 ans-là, c'était comme une descente aux enfers. La situation était devenue difficile, elle allait toujours de mal en pire. La famille a essayé tout ce qu'elle pouvait pour que le père soit guéri. On est allé à des hôpitaux, il y a des personnes qui sont venues prier, il y a même les familiers qui nous ont suggéré d'aller dans des chambres de prière qui sont venus dire des choses là-bas, ils ont fait des délivrances, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il fut même un temps où ma mère, tellement fatiguée de ses fardeaux, tellement que cette maladie avait apporté beaucoup de conflits dans la famille, a décidé de faire quoi? De rentrer d'abord chez ses parents. Elle est retournée chez ses parents et mon père est allé chez sa grande sœur qui le gardait. Et nous, nous sommes restés seuls, mes frères et moi-même, seuls à la maison, moi en train de cuisiner pour mes frères, en train de faire tout pour que nous puissions quand même avoir des choses à manger, que cette situation ne puisse pas nous laisser vraiment complètement abandonner et mourir comme ça. Mais ce que j'ai appris de ces situations, ce que j'ai appris de ces années-là, de ces 20 années où on est passé par beaucoup de défis, c'est qu'il faut réellement qu'on puisse passer par des situations difficiles pour qu'on voie de manière évidente la main agissante de Dieu dans notre vie. Et le diable utilise beaucoup de techniques pour nous aveugler et ne pas nous amener à voir combien les épreuves et les circonstances difficiles peuvent être une terre fertile pour Dieu afin qu'il accomplisse des miracles. Nous avons été aveuglés du fait que Dieu est la source par excellence de notre vie. Dieu est la source de notre vie physique, émotionnelle, spirituelle. Tout ce que nous pouvons avoir comme ressources, comme boulot, comme argent, ce sont des ressources comme je viens de le dire. Mais Dieu est la source suprême. Il y a quelqu'un qui a toujours donné un exemple un peu banal, qui fait réfléchir. Il dit, nous allons tous acheter des légumes, n'est-ce pas? On va tous acheter des légumes, mais il faut savoir que avant que ces légumes n'arrivent au marché, ils ont été cultivés par quelqu'un. Et cette personne-là, avant même de récolter ces légumes, il avait un grain. Et ce grain-là, il l'a mis dans la terre. Et il a fallu qu'il y ait de la pluie et les rayonnements du soleil pour que ce grain-là puisse grandir. Et donc, si Dieu s'est décidé de stopper les rayonnements du soleil et les tombées de la pluie, la croissance du grain semé n'aura pas lieu. Parce que Dieu est la source de tout ce que nous avons. Dieu est la source de tout ce que nous avons. Et le diable, à travers tous ces défis et beaucoup d'autres mensonges que nous pouvons écouter ici et là, essaie de nous aveugler à toutes ces choses-là. Et dans les passages que nous venons de lire en Ézéchiel chapitre 47, nous voyons le prophète Ézéchiel être amené au temple et du temple sont en train de couler des eaux, n'est-ce pas? Des eaux de vie. Et ce que nous devons remarquer, c'est que la source de ces eaux de vie, c'est vraiment la présence de Dieu elle-même. Ce temple-là qui était le symbole de la présence de Dieu. Et l'ennemi travaille activement, les ennemis de notre foi travaillent activement pour nous empêcher de croire en ces choses-là. Parce qu'ils sèment les doutes dans les cœurs de beaucoup de croyants, et même dans ceux de ses serviteurs. Une des plus grandes leçons que nous devons garder aujourd'hui, c'est que bien que les doutes est un sentiment normal de tout être humain, il n'a jamais été bénéfique pour la vie chrétienne. Il n'a jamais été bénéfique pour la marche avec Dieu. Dans Genèse chapitre 3, quand le diable est venu tenter Ève, il lui a posé la question de savoir est-ce que Dieu a réellement dit? Parce qu'il a semé les doutes en elle. Et parce qu'elle l'a écouté, elle est tombée dans l'erreur. Parce que le doute n'a jamais été bénéfique pour la marche chrétienne ou pour la vie chrétienne. Abraham lui-même a aussi fait face à beaucoup de doutes. En Genèse chapitre 15 et 16, il a demandé à Dieu, est-ce que réellement je vais avoir un enfant? Ou bien c'est mon serviteur ici qui va hériter de mes biens? Et dans son doute, il a décidé de prendre les choses à main. Et je sais que l'un des serviteurs qui ont parlé au courant de la semaine passée ont touché à ça. Et même Abraham, dans son doute, est aussi tombé dans l'erreur. Parce que le doute n'a jamais été bénéfique pour la marche avec Dieu. Nous avons célébré récemment la Noël et vous connaissez tous l'histoire de Zacharie. Zacharie qui reçoit un ange qui lui donne une bonne nouvelle. Mais en recevant cette bonne nouvelle, il a aussi douté de la capacité de Dieu à surmonter les obstacles naturels. Et par conséquent, il est devenu muet. Pourquoi? Parce que le doute n'a jamais été bénéfique pour la vie chrétienne. Les ennemis de notre marche avec Dieu savent combien nous devenons fragiles à partir du moment où nous arrêtons de faire confiance en Dieu. Imaginez Paul, quand il est en train de parler de l'armure du croyant, il décrit la foi comme le bouclier. Le bouclier qui fait quoi? Qui nous aide à éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Éphésiens chapitre 6, verset 16 dit, « Prenant par-dessus tous les bouclier de la foi par le moyen duquel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. » Parce que l'ennemi sait qu'à partir du moment où nous baissons notre bouclier, à partir du moment où nous arrêtons de faire confiance en Dieu, nous sommes emportés par toutes sortes de courants. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui courent vers des féticheurs, il y a des gens qui courent vers des maisons de prière, des dadis, je ne sais qui. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé le bouclier de la foi authentique dans les vrais dieux. Et là, ils deviennent fragiles, vulnérables aux flèches enflammées de l'ennemi. À partir du moment où nous arrêtons de faire confiance en Dieu, nous sombrons sous une autre influence. Et je peux nous assurer aujourd'hui que toutes ces autres influences n'ont aucune vie en elles. Elles promettent beaucoup de choses. Ces gens-là promettent beaucoup de choses. Mais au finish, on se rend compte que ce n'était que du vent. Ce n'était que du vent. Le doute, douter de la parole de Dieu, peut détruire notre vie. Peut détruire notre vie. Jacques chapitre 1, verset 5 dit, verset 5 et 6 dit, « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par les vents et ballotté ça et là. » Le doute n'a jamais été bénéfique pour la marche avec Dieu. C'est normal de douter, mais demeurer dans les doutes peut être fatal. Demeurer dans les doutes peut être fatal. Et l'histoire de cette femme, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous rappelle que Dieu, dans sa grandeur, voit la situation particulière de chacune des personnes qu'il a créées. Parce que si nous lisons les livres de deux rois, un roi, deux rois, c'est vraiment l'histoire de la nation d'Israël. L'histoire de la nation d'Israël, comme elle a été divisée de tous ces rois-là qui se sont succédés. Mais au milieu de cette histoire-là, Dieu aussi parle des individus qui ont expérimenté sa main. Parce que Dieu, dans toute sa grandeur, voit la situation particulière de chacun d'entre nous. Dieu fait pour un seul ce qu'il ferait pour tous. Et ce que nous voyons chez cette femme, c'est que dans son moment de crise, elle a fait ce que beaucoup de gens ne font pas. Elle s'est tournée vers Dieu. Je l'ai dit au début que cette femme traversait une crise économique, émotionnelle et familiale. Mais dans sa détresse, elle s'est tournée vers Dieu à travers son serviteur Élisée. Et ça, c'est la deuxième grande leçon. Le premier mouvement que nous faisons informe sur l'objet réel de notre foi. La première chose vers laquelle nous nous tournons informe sur l'objet réel de notre foi. Et pour cette femme, nous voyons réellement que sa foi était en Dieu. Elle s'est tournée vers l'homme de Dieu. Elle lui rappelle que son mari était un homme craignant Dieu. Il y a des paroles dans la Bible qui deviennent évidentes dans notre vie seulement quand nous traversons certaines situations. Quand elle rappelle au prophète que mon mari, il craignait Dieu, c'est l'un des fils des prophètes. En fait, les fils des prophètes ici n'étaient pas vraiment des fils littéraux, mais c'était des gens, des serviteurs, ou on peut dire des disciples de ces prophètes-là. Des gens, on peut les comparer aux étudiants de théologie aujourd'hui. Mon mari est de ceux-là vraiment qui craignent Dieu, mais il vient de mourir et il est mort endetté. La légitimité de sa demande devant les prophètes venait du fait que son mari était un homme juste. Son mari était un homme qui craignait Dieu. Et il y a des paroles dans la Bible qui deviennent évidentes dans notre vie seulement quand nous traversons certaines situations. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, elle est vraie, mais elle devient vivante dans notre vie seulement quand nous traversons certaines situations. Il y a des situations particulières qui rendent vivantes certaines paroles de cette Bible dans notre vie. Elle est vraie, mais ces paroles deviennent vivantes à partir du moment où nous traversons des situations particulières. Et pour cette femme, il y a deux psaumes que j'ai trouvés qui sont devenus vraiment réels dans cette situation particulière. Le psaume 37 au verset 25 dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendia son pain. » Il était mort, oui, mais sa postérité n'allait pas mendier son pain. Psaume 103, verset 17 dit, « Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et a toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. » Ce sont des paroles qui sont devenues vivantes dans la vie de cette femme à partir du moment où elle s'est retrouvée dans ce contexte particulier. La légitimité de sa requête, comme je venais de le dire, devant Dieu à travers Élisée, venait du fait que son mari était un serviteur de Dieu. Et j'ai lu quelque part dans les notes qu'on était en train de balancer sur les réseaux sociaux de ce que mes prédécesseurs ont dit. J'ai lu que l'un des orateurs a dit que Dieu n'exauce pas les rebelles. N'est-ce pas? J'ai lu ça quelque part, j'ai beaucoup aimé. Le mari de cette femme craignait l'Éternel de son vivant. Et même après sa mort, son héritage de foi était une bénédiction pour sa famille. son héritage, des fois, était une bénédiction pour sa famille. Et donc, il approche les prophètes et les prophètes lui demandent de faire une chose tout à fait inattendue. Si j'étais dans la situation de cette femme, je serais étonné par la demande que les prophètes venaient de lui faire. Il lui dit, des Rois, chapitre 4, verset 3, il dit, la première question qu'il lui pose au deuxième verset, il dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et la femme répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Il lui demande de faire quelque chose qui semble n'avoir aucun lien avec sa situation. Parce que une des choses que nous devons savoir avec la foi, c'est que la foi défie la logique. La foi défie la logique parce que Dieu utilise souvent l'inattendu pour nous secourir. Pour cette femme, ce qu'elle avait chez elle, c'était un vase d'huile. Et d'ailleurs, dans d'autres versions, on dit une fiole. C'est-à-dire que ce n'était pas si grand que ça. Une fiole d'huile, et c'est tout. Et c'est tout. Elle ne voyait qu'une fiole d'huile. Mais dans l'économie de Dieu, c'était sa porte de sortie de la crise. Dans l'économie de Dieu, c'était la chose qui allait lui permettre de sortir de cette crise-là. Parce que la foi défie la logique. Parce que Dieu utilise souvent l'inattendu pour nous secourir. La foi, c'est croire en Dieu, même quand son plan pour notre vie va à l'encontre de la raison humaine, ou même de nos expériences. Parce que la foi, elle commence au-delà de ce que nous voyons. La foi commence lorsque nous surmontons nos doutes. C'est là que la foi est. On n'a pas besoin de foi quand on a toutes les réponses. Si on était à ce siècle présent et qu'un prophète te dit, « Ok, qu'est-ce que tu as chez toi ?»« Une fiole d'huile. » »« Ok, va maintenant chez tes voisins et demande-leur de te donner des vases vides. »« Ah, des vases vides ? Moi, je voulais des vases remplis. » »« On ne va pas chercher des vases vides. » On aurait posé beaucoup de questions. On aurait posé beaucoup de questions. Mais la foi, elle commence au-delà de ce qu'on voit. La foi, c'est quand nous surmontons nos doutes. Romains 8, versets 24 et 25 dit, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer? Peut-on l'espérer? 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Quand on a les réponses à toutes choses, pas besoin de foi. Et pour la veuve, comme je viens de le dire, ce n'était qu'une fiole, un vase d'huile, mais dans l'économie de Dieu, c'était sa provision. C'était sa provision et sa porte de sortie de la crise. Et la question que je vais nous poser encore une fois ce soir, c'est quelles sont les petites choses dont Dieu nous a rendus responsables? Parce que des fois, on s'attend vraiment à des choses grandes, mais on oublie d'être fidèle dans ces petites choses-là. On oublie d'être reconnaissant pour les petites choses que Dieu est en train de faire dans notre vie. Parce que ce sont ces petites choses qu'il rassemble encore et encore pour nous sortir de beaucoup de mauvaises situations. Nous pouvons peut-être être en train de les négliger. Ce sont des petites ressources, des petits dons, des petites habiletés. Mais ce sont ces choses-là que Dieu utilise pour accomplir ses desseins dans nos vies. Parce que Dieu utilise souvent l'inattendu pour nous secourir. Et donc, au milieu de cette crise, soyons toujours reconnaissants pour les petites choses que Dieu nous a données. Ça peut être les souffles de vie que nous avons, ça peut être la famille que nous avons, ça peut être les petits commerces que nous avons. Et cette femme, on l'envoie chez ses voisins. Et moi, ça m'a vraiment tiqué parce qu'il est important d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Il est important d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Parce qu'on lui a dit, va chez tous tes voisins. Et donc, elle est allée chez maman Eric. Elle a dit, j'ai besoin de ton vase. Elle va chez maman Kambal, maman Serge. J'ai besoin de ton vase. Et je suis sûr que toutes ces femmes-là étaient en train de se poser des questions. Nawe alifika kwako? Nakakulomba ile vase yako? Aha. Iko sa ki fwa bona ki vraiment cham traumatisé. Toutes ces choses-là. Parce que la foi défie la logique. La foi défie la logique. Mais il faut avoir de bonnes relations avec tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais d'où les secours peuvent nous venir. Combien de nos voisins seraient prêts à nous confier des choses ou à nous venir en aide? Et donc la foi défie la logique parce que Dieu utilise souvent l'inattendu pour nous sortir de situations difficiles. La quatrième chose, si nous pouvons voir, c'est que les prophètes, quand ils donnent l'instruction à cette femme, ils précisent quelque chose. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Il précise, n'en demande pas un petit nombre. Notre capacité à expérimenter les bénédictions qui viennent de Dieu ou de la marche avec Dieu est proportionnelle à notre degré de confiance en lui. Il est proportionnel à notre degré de confiance en lui. La foi dont nous parlons ici n'est pas seulement un slogan. La foi dont nous parlons ici, c'est agir en fonction de ce que Dieu vient de dire. Pas parce que ça a du sens dans notre tête, mais parce que c'est Dieu qui vient de le dire. Et cette femme a agi en fonction de ce que l'homme de Dieu venait lui dire. Elle est allée chez tous ses voisins. Elle est allée chez tous ses voisins. Parce que Dieu est une source infinie de provision. Nous pouvons expérimenter cette provision. Nous ne pouvons l'expérimenter que selon notre réceptivité à la recevoir. Si tu crois que Dieu peut faire de grandes choses, si dans ta marche avec Dieu, tu continues à faire confiance qu'il peut accomplir des miracles, il peut faire des choses, il peut te sortir même des situations les plus désespérées. Si tu continues à croire, le plus tu crois, plus il te montre aussi beaucoup d'autres choses. Plus il se révèle encore un peu plus à toi. Un des théologiens qui ont le plus influencé ma croissance a un jour dit que Dieu veut accomplir l'impossible avec les hommes et les femmes, mais c'est une honte que les hommes veulent seulement faire ce qui est possible. Dieu veut accomplir l'impossible avec les hommes, mais c'est une honte que nous voulons seulement faire ce qui est possible. Nous voulons seulement faire ce qui est Ewan. Ni qu'on a réponse quoi, ni qu'on a A na B, c'est là que je veux faire ça. Mais n'oubliez pas que Dieu peut ajouter un C, l'impossible. Et donc, continuons à poser des actes de foi. C'est que Dieu, c'est à quoi Dieu nous appelle avec les petites choses, continuons à les faire. Parce que plus nous exerçons notre foi, plus elle grandit. La foi, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il se fortifie. Et donc, nous devons exercer notre foi. Être fidèles dans les petites choses que Dieu a mises sous notre responsabilité parce que c'est la clé même de la transformation que nous désirons voir dans ce monde. Vous savez que les mêmes prophètes dont nous parlons ici, ils s'étaient irrités contre un roi. Quelques pages après, dans 2 Rois chapitre 13, le roi Joas, il avait demandé au roi Joas de tirer des flèches. Tellement irrité contre ce roi, il lui a dit, tu viens de tirer seulement 3 fois. Le Seigneur va seulement t'accorder 3 victoires. Il fallait continuer à poser des actes de foi. Parce que notre capacité à voir la main de Dieu, à expérimenter les bénédictions que Dieu a pour notre marche est proportionnelle à notre degré de foi en lui. À notre degré de foi en lui. Dans Ézéchiel, nous voyons que plus le prophète est en train de s'approcher de la source de ses eaux vives, plus la profondeur est en train de grandir. Plus les eaux deviennent plus profondes. Elles ont commencé sur ses chevilles, elles sont allées ici sur ses genoux, et puis sur ses reins. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de Dieu, plus notre champ des possibilités s'élargit aussi. Plus notre champ des possibilités s'élargit. Plus nous croyons et nous obéissons à sa parole, nous voyons son action de manière évidente dans nos vies. Et ce Dieu-là, il peut ou ne pas nous donner ce que nous désirons, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Alors, je ne sais pas quel est le sujet de prière que nous avons pour cette année. Je ne sais pas quel est le fardeau avec lequel nous sommes venus aujourd'hui à ce temple et dans ces moments où l'Église nous permet vraiment de nous humilier dans la prière devant toi, devant Dieu. Mais pour moi, l'un des plus grands sujets que je suis en train d'amener devant Dieu, c'est « Seigneur, augmente ma foi ». Joshua l'a dit ici, et moi aussi, j'insiste, prions que Dieu puisse augmenter notre foi. Aide-moi à croire que tu peux accomplir de grandes choses, même à partir des choses négligeables, même à partir des choses que je néglige. Il y a une personne dans Marc chapitre 9, verset 24, qui avait un fils qui était tellement malade. Et Jésus lui a dit, si tu crois, ça sera possible. Et il a dit, Seigneur, sauve mon incrédulité. Sauve mon incrédulité. Aide-moi à croire en toi, peu importe les situations autour de moi. Parce que tu l'as dit, Jésus l'a dit, c'était comme un écho un écho à cette prophétie que nous venons de lire dans Jean chapitre 7, verset 28. Il a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Parce que quand nous croyons en lui, nous sommes remplis de son esprit. Et cet esprit nous anime et fait de nous des agents de transformation. Partout où nous irons, que ce soit en famille, que ce soit en société, et même ici dans l'église. Alors quel est ton fardeau aujourd'hui? Dieu voit ta situation. Je ne sais pas quel est le fardeau avec lequel tu es venu ce soir, mais Dieu voit notre situation particulière de chacun d'entre nous, comme cette femme veuve. C'est vrai que c'est l'histoire d'une nation que nous sommes en train de lire dans ces livres, mais dans l'histoire d'une nation, Dieu voit la situation particulière d'une veuve qui était dans la détresse. Et je peux l'affirmer encore une fois aujourd'hui que Dieu voit notre situation. Nous avons besoin qu'il augmente notre foi. Nous allons nous lever et nous allons demander à Dieu de nous aider. Parce que sans lui, nous ne pouvons le faire. Nous allons nous demander à Dieu de nous montrer quelles sont ces choses-là que nous négligeons peut-être, mais qu'il peut utiliser pour nous sauver, pour nous tirer des situations peut-être difficiles, des crises multidimensionnelles auxquelles nous pouvons être en train de faire face. Nous allons demander à Dieu, encore une fois, de venir et de guérir notre nation et de montrer combien il est le Dieu qui utilise les crises, les catastrophes comme une terre fertile où il peut accomplir des miracles. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Nous allons venir tous ensemble devant Dieu dans la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, venons devant toi ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais c'est quand tu es en train de nous rappeler que Dieu est souverain. Il n'y a aucune situation qui est hors de son contrôle. N'importe quelle crise que tu es en train de traverser aujourd'hui, Dieu est en train de le voir et ça ne lui échappe pas parce que c'est un Dieu souverain. Venons devant Dieu avec foi, demandons-lui d'augmenter notre foi et de nous faire voir sa main agissante, même quand nous sommes en train de traverser ces crises multidimensionnelles, de nous faire voir les miracles qu'il est en train d'accomplir à partir des petites choses que nous semblons négliger, mais lui, comme il est le Dieu qui utilise l'inattendu pour nous venir au secours, il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, afin que nous puissions avoir ta main agissante dans nos vies, que nous puissions voir ta main agissante même au milieu de toutes les crises que nous pouvons être en train de traverser. Ô Dieu de gloire, nous voulons tes fleuves d'eau vive parmi nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur, à voir que la plus grande chose, le plus grand don que nous pouvons avoir dans notre vie, Seigneur, c'est ta présence en nous, Seigneur. C'est ta présence au milieu de nous, Seigneur, parce que dans ta présence, Seigneur, il y a de la joie et la joie en abondance, il y a de la vie et la vie en abondance. Ô Dieu de gloire, règne parmi nous, Seigneur, aide-nous à voir ta main agissante, ô Dieu de gloire. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Éternel Dieu, nous prions encore une fois pour cette parole que tu viens de semer en nous ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un pardon particulier et qui a besoin que Dieu puisse augmenter sa foi aujourd'hui, Seigneur. Je prie que cette parole puisse prendre vie en lui, Seigneur, ou en elle. Je prie, Seigneur, que nous puissions partir de cette place avec une confidence, Seigneur, que même quand nous ne les voyons pas, Seigneur, tu es en action dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à sortir de cette place avec la confidence, Seigneur, que tu n'es pas surpris par toutes les choses qui sont en train de nous arriver parce que tu es un Dieu souverain, un Dieu qui est au contrôle, au Dieu de gloire. Prends contrôle dans nos vies, Seigneur. Prends contrôle, au Dieu. Montre-nous ta main agissante, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. L'agneau est souverain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.